Bonsoir. 24 janvier 2019, 24 janvier 2022, cela fait 3 ans depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême en RDC. Lors de son discours d'investiture, le 5e président de la RDC s'était engagé à libérer tous les prisonniers politiques, à rétablir l'autorité de l'État, à lutter contre la corruption et l'impunité, ainsi qu'à pacifier le territoire national par l'éradication des groupes armés. Il a aussi promis de lutter contre la mauvaise gouvernance et de promouvoir l'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État. 3 ans après, quel bilan dressez-vous de l'action de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC sur le plan socio-économique, sécuritaire et politique? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 24 janvier 2022. Participe au débat Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme politique Lamouka. Maître Blanchard Mongomba, bonsoir.
Bonsoir Madame Kelly Kouté, bonne année à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Dieudonné Nkichi, président national du parti politique Congo Positif, un parti politique, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Dieudonné Nkichi, bonsoir.
Bonsoir, très cher Kelly Kouté, et mes voeux le meilleur à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Et le professeur Casimir Ngoubi, politologue expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir Ngoubi, bonsoir.
Bonsoir, maman Kelly Kouté. Bonne année à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci. Vos nombreuses réactions, nous les avons déjà reçues, vous, auditeurs de radio Okapi, notamment celle de Cyril Molomba depuis la commune de Massina à Kinshasa. Au regard des défis qu'il attendait à sa prise de pouvoir, le bilan après 3 ans est encourageant par rapport aux efforts déployés jusque-là pour établir la sécurité dans la partie est du pays, la lutte contre les détournements des deniers publics, la matérialisation de la gratuité de l'enseignement, l'amélioration du social du peuple congolais. Il y a de l'espoir quant à l'avenir du Congo. Jean-Baptiste Mbeva Mbale lui pense que 3 ans au pouvoir, le citoyen lambda ne voit rien de positif, son social n'étant jamais amélioré. Parlons de la bonne gouvernance et de l'impunité. Là, c'est pire, selon lui. Pour preuve, le détournement est devenu un mode de vie, et ce, au sommet de l'État. Pire encore, ceux qui détournent aussitôt mis en prison, ils sont libérés sans avoir restitué les fonds volés. Ceux qui sont dans la jouissance aujourd'hui et se réjouissent de ce pouvoir, il y a la présidence, le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement. À Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, vous avez la possibilité de nous suivre sur notre site internet www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Ce 24 janvier 2022, cela fait 3 ans que depuis Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême en RDC, la passation de pouvoir s'est déroulée de façon pacifique avec Joseph Kabila. Dans son discours du 24 janvier 2019, le président Félix Tshisekedi avait annoncé notamment la libération de tous les prisonniers politiques, l'instauration de l'état de droit, la lutte contre la corruption et l'impunité, ainsi que la pacification du territoire national par l'éradication des groupes armés. Aujourd'hui, 3 ans après, quelques habitants de Bukavu au sud Kivu s'expriment à cette occasion au micro de Rachel Kiesse. On les écoute.
Quant à ce qui concerne la liberté d'expression, le respect des droits humains, aujourd'hui nous voyons les gens s'exprimer en toute liberté. Nous avons vu les exilés politiques rentrer au pays. Les budgets de notre pays étaient à 4 milliards et aujourd'hui nous avons 10 milliards. Et donc, nous pouvons nous dire que le président Félix est en train de travailler pour améliorer le bien-être social.
Je ne peux que lui adresser mes sincères félicitations. Je pense que nous ne devons pas être plus exigeants envers lui. On doit lui laisser le temps pour qu'il puisse travailler. Il ne peut pas toucher toutes choses qui composent la RDC au même moment.
3 ans depuis que Félix est au pouvoir, je n'ai pas vu vraiment beaucoup de choses s'améliorer dans le pays.
Et nous n'espérons rien parce qu'il n'y a qu'une année qui lui reste à travailler. L'autre année, ça sera une année de campagne.
campagne.
Concernant la pauvreté, jusque-là, on ne sent pas encore l'implication du gouvernement dans le cadre de la création des emplois, dans le social. Mais on a constaté quand il a pris le pouvoir, le pays était dans un état de non-état.
Comme je suis là, je n'ai jamais vu ce que le président a déjà fait pour nous.
C'était là quelques habitants de Bukavu au micro de Rachel Kiesse Dieudonné Nkichi, président national du parti politique Congo Positif, un parti membre de l'Union Sacrée de la Nation. 3 ans aujourd'hui depuis que Félix Tshisekedi a accédé à la magistrature suprême en RDC. Vous venez de suivre ces quelques habitants de Bukavu. Quant au bilan du chef de l'État, les avis divergent. Vous, en tant qu'acteur politique, quel bilan vous dressez de l'action de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC 3 ans après sur le plan socio-économique?
Bon, merci beaucoup très cher Kelly. Tel que vous entendez nos compatriotes qui ont parlé, vous avez dit les avis divergent, c'est normal. L'unanimité n'a jamais existé dans tout ce qui peut exister comme tel. Au moins aujourd'hui, une chose reste constante, une chose reste sûre. Il y a la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui j'adresse d'ailleurs mes félicitations pour déjà les 3 années au pouvoir. Je crois que aujourd'hui, comme l'a dit assez régulièrement le ministre de Communication et Médias, on peut tout reprocher à Félix Tshisekedi. On peut tout reprocher à son gouvernement, mais on ne peut pas leur reprocher la volonté. En tout cas, à regarder le président de la République, on sent qu'il a de la volonté. Quel est le bilan? Le bilan que nous voulons faire aujourd'hui doit partir de ce que un de nos compatriotes venait de dire. Le pays vient de très, très, très loin. De très loin. Il est vrai que nous étions vraiment... comme enfoui sous la terre. Le pays lui-même fait l'objet de complots, fait l'objet de beaucoup de convoitises, beaucoup de problèmes, si bien qu'aujourd'hui, rien qu'avec l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi à la tête de notre pays, il a suscité les espoirs. Et c'est normal que l'impatience se fasse constater en rapport avec les espoirs qu'il a suscités.
Alors, il a suscité de l'espoir, comme vous dites, mais aujourd'hui, certains Congolais disent que cet espoir est en train de s'envoler avec tout ce qu'on constate autour de la gestion du président Félix Tshisekedi à la tête de la RDC.
L'espoir ne s'envole pas. Peut-être que aujourd'hui, les gens peuvent dire que l'espoir est en train de s'envoler par rapport, probablement, en comptant les années de mandat. Et là, c'est un problème de notre constitution qui ne donne pas suffisamment le temps à tous ceux qui arrivent. Ce serait n'importe quel autre président. Ce ne serait peut-être pas Félix-Antoine Tshisekedi à la tête. Aujourd'hui, on placerait quelqu'un d'autre à la tête. Dans ces mêmes conditions, nous aurons un bilan plus ou moins partagé. Mais aujourd'hui, ce qui est important de relever, c'est que il y a de la volonté, il y a l'espoir. Les Congolais ont de l'espoir. Les Congolais savent que demain sera mieux qu'hier à partir du travail que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire.
La volonté, oui, Dieudonné Nkichi, mais le peuple a besoin du concret. Les Congolais veulent voir, par exemple, la baisse des prix des produits de première nécessité. Ils veulent avoir accès aux services de l'État sans problème.
Les Congolais veulent quelque chose, mais ils n'avaient même un bateau de pêche. Il n'avait même pas une route, il n'avait même pas ceci, il n'avait même pas cela. Donc, où que le Congolais, c'est légitime pour le Congolais d'exiger ça de Félix-Antoine Tshisekedi. C'est légitime. Mais les mêmes Congolais doivent savoir qu'ils n'avaient pas du feu, ils n'avaient pas une casserole, ils n'avaient pas de l'eau, ils n'avaient pas de la farine. Ils n'avaient même pas un malaxeur. Comment ils pouvaient manger? Donc aujourd'hui, il faut que dans la maison, on crée ces conditions. Et c'est le travail que Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire en ce moment. C'est de créer les conditions de notre propre développement. C'est de créer les conditions qui fassent que les peuples vivent tel que Dieu l'a voulu en entissant à ce pays ici de toutes les potentialités que nous avons.
Donc, pour moi, pour nous des Congos positifs, nous sommes du côté de ceux qui pensent que il faut donner quand même un peu de temps, pas beaucoup de temps, il faut laisser au président Tshisekedi et à son gouvernement et à tous ceux qui l'accompagnent le temps de pouvoir planter les décors, faire en sorte que on crée les conditions de ce dont on a besoin.
Il faut laisser un peu de temps au président ainsi qu'à son gouvernement pour créer les conditions à peu près. Combien de temps? Une semaine? Un mois? Une année? 10 ans? 20 ans?
Déjà, en reculant, vous lui avez déjà bouffé 7 mois. Vous lui avez bouffé en 2019 7 mois rien que
vous pour là, c'est qui Dieudonné Kishi? Lorsque vous parlez là, de
le
vous.
Le tiraillement FCC cash lui a pris le temps. La COVID lui a pris le temps que personne n'est en train de lui restituer. Personne ne lui restitue ce temps, mais on continue à lui compter le temps. Donc, combien de temps? Pour moi, je ne peux pas dire ici que il faut autant de temps, mais je voudrais simplement que la machine qui s'est mise en place aujourd'hui pour prendre tout ce qui peut paraître comme négatif et les mettre comme élément de pour créer le désespoir, que cette machine-là s'arrête quand même, afin que l'espoir continue et que le président et son gouvernement fassent le travail qu'ils sont en train de faire. Et effectivement, c'est un travail qui va porter le fruit.
Est-ce qu'on retient pour vous de donner un Kishi que le bilan du président Félix Tshisekedi est positif?
Le bilan est positif. Vous savez, maintenant, vous avez posé une problématique, Elie. Vous avez posé une problématique où il y a plusieurs séquences. Moi, j'aurais bien voulu que dans ce débat, nous y allions point par point.
J'ai commencé. Dieudonné Kishi.
Des prisonniers.
Dieudonné Kishi, on est sur le plan socio-économique. Je vous ai posé la question. Quel bilan vous dressez de l'action du chef de l'État sur le plan socio-économique?
Oui, sur le plan socio-économique. Parlons-en. Il n'y a pas d'économie là où il n'y a pas de production. Or, ce pays ici, depuis les années 90, après les pillages, on a instauré un système d'importation. Et vous avez vu, avec le travail de l'IGF, les exonérations pour faciliter les importations. Et pour démanteler ce travail-là, combien de temps ça a demandé? L'économie congolaise, parlons-en, elle est tenue aujourd'hui par qui? Par des étrangers. Et c'est un travail extraordinaire qu'il faut faire afin de ramener d'abord l'économie au Congo. Nous n'avons pas d'économie. L'économie est entre les mains de l'étranger. Alors, tout ça, ce sont des paradigmes qui demandent à être changés. Et si on ne comprend pas que c'est ça le travail qu'il faut faire, les désespoirs vont naître. On va dire que sur le plan socio-économique, on ne fait rien.
En trois ans, ce n'est pas possible de faire ce travail.
On est en train d'abord de vous ramener à arrêter les importations. On est en train de vous ramener à arrêter, par exemple, les exonérations qui facilitent les importations. Donc, pour moi, sur le plan économique, si on ne fait pas un travail préalable qui est en train d'être fait en ce moment, alors en ce moment-là, nous irons dans les choses du genre, on met des cantines le matin, les gens viennent s'aligner, on leur met avec des assiettes, on leur met de la bouillie, et puis ils mangent à midi, ils viennent, ils mangent le soir. Non, c'est pas ça.
300, ce n'est pas suffisant pour faire ce travail.
C'est revoir nos paradigmes. Nous devons revoir nos paradigmes. Dans ce pays ici, moi personnellement, Congo positif, nous avons écrit une lettre au ministre du Commerce extérieur pour lui dire que nous devons commencer à freiner les importations pour produire localement. Mais les gens ne veulent pas que nous produisions localement. Et ce travail-là, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va dire aux gens arrêtez d'importer et on veut produire au Congo. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêt derrière, il y a beaucoup de gens derrière.
3 ans après, que peut-on dire du social des Congolais depuis que Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC?
Le social passe par le travail. Le social passe par le travail et le travail ne vient que par la production. On est en train de mettre des choses en place pour produire. Le social qui vient par les importations n'en est pas un. et c'est ce que nous avons fait jusqu'ici, depuis 91 jusqu'ici, on s'est trompé en faisant un social qui vient des importations. C'est ce qui n'est pas possible. Le social ne peut venir que par la production, et aujourd'hui les efforts sont en train d'être faits pour que la production arrive. Je prends la région du Kassai qui n'a pas de l'électricité. Comment on va produire au Kassai sans électricité? Le président est en train de travailler sur la chute Katende. À l'équateur, les chutes de Boussanga et partout, le travail est en train de se faire pour planter les décors d'un vrai développement.
Merci.
Et pour cela, je plaide pour que la confiance soit faite au président de la République.
Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme Lamouka. Maître Blanchard, quel bilan vous vous dressez de l'action de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, 3 ans après, sur le plan socio-économique?
Merci beaucoup, Madame Kelinkouté. En tout cas, je dirais un bilan très, très, très mitigé. La preuve, c'est que vous aviez laissé trop de temps à mon co-débatteur, l'intervenant de tout à l'heure, et vous lui avez posé des questions très claires, mais vous aviez vu, vous aviez remarqué comment il a eu du mal à vous donner des réponses claires aux questions claires que vous lui posiez. Vous lui posez par exemple la question de savoir ce que l'on peut dire du social du Congolais, il vous dit non, ça passe par le travail. Pourtant le Congolais ne travaille pas. Maintenant, qui doit amener la vision de ce travail, de la production? N'est-ce pas le gouvernement? N'est-ce pas Monsieur Chilombo et son équipe qui est aujourd'hui à la tête du pays? Vous lui posez la question son bilan, ce qu'il a déjà fait, il vous dit non, ben voilà, il faut lui accorder un peu de temps. Donc la Constitution donne peu de temps. Donc il n'a rien dit de concret par rapport au bilan de M. Chilombo. Mais moi je veux vous répondre, madame. Vous savez, premièrement, sur le plan politique, comme vous le savez, déjà la venue ou l'arrivée de M. Chilombo à la tête de notre pays, de la manière que nous connaissons, sur le plan politique, pose déjà d'énormes problèmes. Parce que lorsque vous arrivez à la tête du pays par de mécanismes et des deals, sans que vous puissiez recueillir, sans que vous puissiez avoir la légitimité, les mandats clairs de notre peuple, ça pose d'énormes problèmes. Pourquoi? Parce que premièrement, ça prouve que votre vision ou votre programme politique n'a pas été approuvé préalablement par le peuple. Parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire et c'est à lui que revient la compétence, la capacité de juger ou de jauger chaque vision, chaque programme, si ça s'adapte aux réalités socio-économiques de chaque pays ou de sa situation. Ça, c'est sur le plan politique. Bref, c'est que ça montre que déjà, puisqu'il est arrivé par un deal, le mécanisme des deals, ça lui a obligé de composer avec les personnes ou avec les familles politiques qu'il ne souhaitait pas travailler avec eux, parce que, par exemple, ils n'ont pas la même vision. Ce qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'il a accepté d'accéder au pouvoir par ces mécanismes-là du deal, aujourd'hui, on ne peut pas nous opposer le fait qu'il n'a pas eu le temps parce qu'il s'est disputé encore le pouvoir avec Kabila, mais qui l'avait amené à se mettre avec Kabila sur une même table? Qui l'avait opposé ou imposé à créer une majorité ensemble avec Kabila? N'est-ce pas? Il était conscient de cela puisqu'il n'avait que 40 députés. Donc, politiquement, il a déjà échoué sur ces plans-là.
Mais il y a eu aussi la pandémie de Covid-19, comme l'a dit Dieudonné Kishi, qui a empêché le président de pouvoir mener à bien tout ce qu'il avait prévu comme action concrète pour la population congolaise, pour le pays.
Madame, c'est un faux argument. C'est un faux argument parce que lorsque on gère pour le présent et pour les futurs. On est appelé à se préparer aux chocs exogènes qui pourraient surgir de gauche ou à droite. Mais lorsque vous entendez des responsables vous avancer des arguments comme quoi il y a eu pandémie à coronavirus, alors que nous savons que c'est une catastrophe, c'est une situation qui est arrivée non pas seulement en République démocratique du Congo, c'est arrivé au monde, et tous les pays du monde ne vont pas vous dire qu'ils se sont arrêtés, ils ne fonctionnent plus parce qu'il y avait pandémie à coronavirus. Donc,
déjà qu'il y a un échec et on cherche par où s'accrocher pour essayer de justifier cet échec. Mais maintenant, sur le plan sécuritaire, madame.
On va y arriver, Maître Blanchard Mongomba. Tout à l'heure, vous disiez que le bilan était très mitigé. Ça veut dire qu'il y a quelque part où il y a du positif dans l'action du chef de l'État depuis qu'il est à la tête de la RDC. Il n'y a pas que des choses négatives.
Bien, le positif, c'est qu'on a vu M. Tshilombo faire autant de voyages qu'aucun président en République démocratique du Congo n'a pu le faire. Il a effectué plus de 100 voyages en 3 ans, c'est déjà énorme. Et je crois que
c'était à la recherche des investisseurs.
Ben, c'est là où je voulais en venir, parce qu'il a fait autant de voyages, ce qui est positif pour lui, et c'est ce qui retient l'attention de Congolais. Mais maintenant, les retombées de ces voyages, est-ce que nous pouvons aujourd'hui compter 2, 3, 4, 5 investisseurs qui sont arrivés placer leurs, en tout cas, capitaux ici en République démocratique du Congo du fait de voyages de M. Tshilombo? La réponse est non. Je peux vous prendre l'exemple du Rwanda. Le Rwanda vient de inaugurer l'usine des transformations de l'or dans son pays avec une enveloppe de 5 millions de dollars. Mais les voyages de M. Tshilombo nous ont fait perdre plus de 100 millions de dollars. Mais est-ce que aujourd'hui il peut nous dire que les retombées de ces voyages-là a permis au pays de capitaliser ou de faire venir les investisseurs qui ont pu placer ne fût-ce que 5 millions pour faire quoi que ce soit en République démocratique du Congo? C'est ça le vrai problème. Donc moi, je vous dis, madame, c'est que ce que nous voyons aujourd'hui, sur le plan socio-économique, c'est le chèque qui se caractérise déjà, c'est l'échec qui caractérise le bilan de 3 ans de Monsieur Tshilombo, et je dirais que ils ont fait preuve de l'amateurisme et en tout cas de l'impréparation, parce que il suffit de voir comment ses collaborateurs à lui, conseillers, s'est donné le luxe de prendre les attributions du gouvernement, en commençant par son directeur de cabinet dans le cadre du projet 100 jours, ce qui n'est pas prévu dans le texte de notre pays. Ça montre que ils sont dans le tâtonnement, ils sont dans l'amateurisme et dans ce que je peux appeler même l'enrichissement illicite, parce que pour la plupart d'eux, ils se donnent le luxe d'aller piloter des projets simplement parce que ils voulaient gérer, contrôler le moyen qui était censé être mis à la disposition du gouvernement.
Merci.
Donc, vous comprenez que nos amis sont arrivés là, non pas pour travailler pour l'intérêt de notre peuple, mais ils sont arrivés pour se positionner individuellement au détriment, malheureusement, de ce peuple.
Professeur Casimir Ngoubi, politologue et expert dans le domaine des violences politiques et des groupes armés. Professeur, un mot sur le bilan de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC sur le plan socio-économique, 3 ans après. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bon, sur le plan socio-économique, je note les ambitions du chef de l'État de contacter un certain nombre d'acteurs sur le plan international, acteurs qui devaient lui permettre de réaliser un certain nombre d'actions sur le plan économique. Je vois ici les différents États visités, je vois les États comme la Grande-Bretagne, je vois la Russie, le Royaume-Uni, qui voulaient s'ajouter aux anciens acteurs internationaux qui étaient déjà présents, notamment la France et les autres. Ce sont des ambitions qui ont été visibles, mais malheureusement, sur le plan socio-économique, je peux dire que ces ambitions n'ont pas pratiquement conduit à des résultats escomptés. Je prends par exemple sur le plan de transport. Le gouvernement a monté sa bonne foi d'aider les Congolais, n'est-ce pas, à baisser les prix de transport aérien. Mais aujourd'hui, je crois que je vous informe que je viens de l'aéroport, vous avez des avions étrangers loués par le gouvernement de la République. Ces efforts-là, moi, je pense qu'ils devaient être compensés par l'achat d'une flotte aérienne propre à la République pour éviter, n'est-ce pas, que les actions menées sur ce plan-là, n'est-ce pas, soient des actions de saupoudrage. Mais aussi le non-respect de l'orthodoxie budgétaire sur le plan social, ça devait nécessairement avoir des retombées, parce que déjà, si nous prenons l'année 2019, 5 mois après seulement, le budget déjà avait atteint les 98%. Vous voyez, selon les rapports des états de suivi budgétaire du ministère budget que Jeune Afrique a pu consulter, en clair, la présidente a déboursé 132 milliards de francs congolais, ou soit 75 millions 855 dollars, sur les 134 milliards dont la République devait disposer en 2019, déjà au moins demain.
alors que ce budget devait être chiffré à 5,497 milliards. Et donc vous voyez déjà qu'à partir de ce non-respect de l'orthodoxie budgétaire, il était donc clair que sur le plan social, le gouvernement de la République ne devait pas disposer de moyens conséquents pour résoudre les questions liées aux besoins sociaux de base. Voilà dans un premier temps ce que j'ai dit. Il y avait des ambitions d'un côté, mais de l'autre, les dépenses engagées à cause du fait de que les institutions politiques étaient devenues piquetivores, le gouvernement était incapable en 2019, tout comme en 2020. Le fléau de Covid vient s'ajouter à ça, plus le déficit constaté au niveau de la gestion quotidienne des institutions politiques. Tout cela n'a pas permis au gouvernement de la République de résoudre des questions sociales et culturelles et consorts comme il se devait.
Alors, le gouvernement n'a pas...
Je peux dire sur le plan social.
Alors, sur le plan économique, il faut quand même souligner que la RDC a connu une croissance positive en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Mais malheureusement, comme vous l'avez dit, ça s'est pas ressenti dans les vécus quotidiens de la population, selon plusieurs analystes.
Affirmatif, parce qu'on ne sait pas se contenter de la croissance économique, de la maîtrise du cadre macroéconomique, si le panier de l'aménageur ne sont pas des actions par rapport à cela. Donc il faut qu'il y ait ce lien-là. C'est bien beau de le dire, mais ces chiffres et cette maîtrise du cadre macroéconomique, à quoi sert-elle si véritablement les vécus quotidiens ne suivent pas? Voilà dans un premier temps ce que je voudrais dire. Donc les besoins sociaux de base ont posé énormément de défis majeurs. L'eau, l'électricité. Regardez dans toutes les villes, je ne suis pas allé dans tous les chefs-lieux de toutes les provinces, mais je vous dis que les défis majeurs par rapport à l'eau, à l'électricité, à la circulation dans les grandes agglomérations de notre pays souffrent énormément. Et donc, je voudrais, sur le plan social aussi, parler de l'enseignement supérieur universitaire qui annonce d'ailleurs des mouvements de grève au début de cette année académique, alors que cette année, 2022, est une année préélectorale, mais ça pose énormément de problèmes et démontre à suffisance que sur le plan social, il y a un problème où les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État, le chef de travaux assistant, professeur d'université, ne savent plus nouer les débuts du mois. Et donc, là, il faut véritablement être... avocat du diable pour affirmer les contraires.
Dieudonné Nkichi, sur le plan politique, que peut-on dire de l'action de Félix Tshisekedi? On sait que lors de son discours d'investiture, le cinquième président de la RDC s'était engagé à libérer tous les prisonniers politiques, à rétablir l'autorité de l'État. Est-ce le cas 3 ans après?
À propos de la libération des prisonniers politiques, par rapport aux 3-4 catégories de prisonniers politiques que nous avons dans ce pays, je crois que le président en a déjà libéré ceux qui étaient enfermés dans les différentes prisons, notamment à Makala. Je ne vais pas citer les noms, il y a eu des cas emblématiques, hein, comme les Frank Diongo, Diomi Dongala, tous les autres. Il a même ramené ceux qui étaient allés en exil, donc il est allé au-delà de sa promesse. Mais il y a encore des catégories de prisonniers que le président doit absolument libérer. C'est notamment les prisonniers idéologiques. Il y a beaucoup de gens qui sont sur l'espace politique congolais comme acteurs politiques, mais qui ont l'esprit ailleurs, qui ne sont pas concentrés sur le Congo. Cette catégorie-là est très très dangereuse. C'est la catégorie des gens qui voient tout seulement dans le mauvais, dans les négatifs, alors qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait. J'ai suivi les débatteurs de tout à l'heure qui parlaient.
Maître Blanchard de la Mouka.
Maître Blanchard, voilà, excusez-moi. Maître Blanchard est en train de nous amener sur les débats de la rue, parlant des voyages. On comprend que c'est parce que nous sommes dans un pays où les voyages sont un luxe. C'est comme ça qu'il y a des groupes de gens qui sont assis quelque part en train de compter. Bon, voilà, chez les voisins, le monsieur là, il vient de voyager. Demain, il a encore voyagé. Après, demain, on comprend ça comme ça. Pourtant, c'est très différent. C'est très différent. Le président vient, il trouve un pays pratiquement en lambeaux où les standards ne sont pas là. Et on veut qu'il s'asseye pensant que toutes les solutions, il va les trouver au Congo. Et c'est dans ce genre de débat qu'on nous amène, que Maître, qui est avocat, nous amène sur une grande radio comme la radio Okapi, et c'est déplorable.
Adjodou Nkishi, reste en ligne, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, dans la province du Nord Kivu.
Je suis Justin Mupenzi depuis Goma. Le bilan est très trop médiocre. La quasi-totalité des promesses ne sont pas réalisées et nous avons du mal à croire que dans 2 ans quelque chose va changer, car la situation va de mal en pire. Si le président était vraiment courageux comme il le prétend, il devrait commencer par ne plus faire de promesses et en réaliser quelques-unes qui ne lui demandent d'ailleurs pas grand-chose, comme arrêter d'être surpris quand on lui parle des réalités que nous vivons, et surtout mettre de l'ordre dans son camp, parce que même si par un coup de baguette magique il parvenait à décrocher un deuxième mandat, personne n'oubliera qu'il a fait avancer le pays de 5 pas et il a retourné en arrière le pays de 500 pas.
Brève réaction de Denis Nkishi.
Bon, je crois que notre compatriote doit prendre son mal en patience. Il doit savoir que le pays ici a des problèmes qui nous viennent de très loin, qui n'ont jamais été résolus comme tels. Et que aujourd'hui la volonté qui est là, c'est d'aller en profondeur, d'éviter les questions essentielles et de revenir à la surface pour faire le développement. C'est ça. En même temps, je sais qu'il y a des espoirs qui sont là. Il y a des choses qui doivent être faites. Les choses vont de mal en pire. Sur quelle base? Qu'est-ce qui va de mal en pire? Parce que j'imagine quand même que un pays a beaucoup de choses.
Votre ligne est en train de se dégrader. De donner une question, la réalisation va essayer de vous rappeler. Votre ligne se dégrade là, on vous capte difficilement. La réalisation va essayer de vous rappeler. Maître Blanchard Mungomba, votre bilan sur l'action de Félix Tshisekedi sur le plan politique 3 ans après sa prise de pouvoir, 3 ans après son entrée en fonction comme président de la République de la RDC.
D'abord, madame, le co-débatteur de tout à l'heure vient de dire que, ben voilà, nous sommes dans un pays où le voyage est un luxe. Effectivement, il a bien dit, le voyage est un luxe pour le peuple congolais. Il sait pourquoi? C'est parce que le peuple congolais n'a pas un salaire décent qui lui permet de voyager. Déjà, à l'intérieur du Congo, pour prendre le taxi ou le bus pour aller d'une province à une autre, c'est tout un problème. Et prendre le vol pour sortir du pays, c'est vraiment un calvaire. Voilà pourquoi le voyage est un luxe. Mais c'est encore un luxe, parce que c'est avec l'argent du contribuable que M. Chilombo se déplace, que M. le co-débatteur ne pense pas qu'en les 10 ans, il va se faire très plus intelligent que les compatriotes qui nous suivent en ce moment. Les compatriotes qui nous suivent, ils savent que c'est notre argent et nous devons faire la comptabilité. Lorsqu'il sort, il dépense, nous devons savoir combien ça nous rapporte par ses voyages, parce que ce n'est pas l'argent.
Est-ce qu'on peut évoluer, Maître Blanchard?
Mais revenons à la question. Il parle de ces pays vient de très loin. Monsieur Nkishi était avec Kabila. Est-ce que lui, il peut nous dire que là où Monsieur Chilombo a trouvé les pays aujourd'hui est pire que là où Monsieur Kabila avait trouvé les pays? Est-ce que Monsieur Nkishi peut nous dire aujourd'hui là où Monsieur Chilombo a trouvé les pays aujourd'hui, c'est pire que là où Mouzé Kabila a trouvé ses pays? Non, moi je crois qu'on ne doit pas mentir au peuple congolais. Nous devons dire au peuple la vérité.
Maître Blanchard, sur le plan politique, s'il vous plaît, sur le plan politique, quel bilan vous dressez des 3 années de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC?
Mais sur le plan politique, il n'y a aucune avancée. Il n'y a aucune avancée parce que là, nous refaisons les mêmes choses que ce que nous avions condamné et critiqué contre Kabila hier. Je prends l'exemple.
Il avait promis la libération des prisonniers politiques, ce qui a été fait. Est-ce que ce n'est pas positif, cette action-là, cet acte opposé par le chef de l'État?
Mais la libération politique a été précédée par les arrestations politiques. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison simplement parce que ils ont parlé de Mutu Arulia Mbuma. Ils se retrouvent en prison. Il y a des personnalités comme ça. Donc ici, moi, je pense que ce n'est pas ça qui doit faire les bilans positifs de M. Chilombo. Ce que nous devons noter sur le plan politique, c'est que aujourd'hui, il y a l'institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, que tout le peuple congolais veut de cette institution comme une institution qui doit être animée par les non-politiques. Et nous, en tant que Lamouka, nous nous sommes battus, nous continuons à nous battre pour placer à la tête de cette institution des personnalités apolitiques, dépolitiser la tête de cette institution. Mais vous aviez vu comment M. Tshilombo et toute son équipe se sont battus bec et ongles pour placer à la tête de la CENI un M. Kadima qui est membre de son parti politique et un de ses très proches. Au niveau de, du secrétariat exécutif national, il place encore un de membres de son parti et un de ses collaborateurs au niveau du cabinet. Ça montre que sur le plan politique, il n'y a rien d'avancé, parce que c'est pire que ce qu'on a vu dans les années passées. Parce que il faut vous poser la question. En plaçant des personnalités comme M. Kadima, qui est membre de l'IDPS, M. Toto, qu'est-ce que M. Tshilombo prépare pour les prochaines élections? Parce que c'est la CENI, ce sont les élections qui consolident la démocratie, qui consolident en tout cas les combats politiques dans notre pays. Mais lorsqu'on se bat pour placer à la tête de ces institutions, de cette institution, des personnalités qui ont déjà de couleurs politiques, je pense que on peut tout dire, mais le résumé est là. C'est vraiment la même chose que ce que nous avions combattu hier contre M. Kabila, mais le
alors, on
ne
va
pas
prendre...
baisser les bras, il va continuer à se battre.
On va prendre très rapidement pour vous, Maître Blanchard, cette réaction qui nous vient de Bounia, dans la province de l'Ituri.
Djibril Banidoloa, depuis la province de l'Ituri, à Bounia. À mon avis, depuis le début de son mandat, le président de la République manque des stratégies pour accomplir sa promesse. Malheureusement, l'instabilité politique, l'absence de collaborateurs intègres et honnêtes, fait que sa vision se concrétise d'une manière lente. Pour cela, le président devrait envisager d'être homme du terrain, comme l'a fait son homologue tanzanien John Magufuli. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il lance un projet, le suivi doit être fait à 50% par lui-même. Merci.
Brève réaction, Maître Blanchard. Vraiment, brève réaction.
C'est la preuve que M. Tshilombo n'a pas été préparé pour gouverner à la tête de ce pays. Et je pense que le peuple congolais est conscient de cette réalité et le peuple se prépare déjà pour placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut, de manière à nous aider à sortir de ces gouffres dont monsieur le co-débatteur de tout à l'heure continue à se plaindre. Et or, il le savait depuis qu'ils étaient encore candidats, que le pays vient de très loin et qu'il fallait mettre en place des stratégies, des mécanismes pour sortir de cette situation. Mais lorsque l'on constate aujourd'hui, au lieu d'apporter des solutions, on fait des constats, je pense que ils ne sont pas à leur place, ils doivent laisser pour que permettre au peuple de placer les dirigeants qui méritent à la place.
Professeur Casimir Ngoubi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
C'est Farel Malassa depuis Kinshasa. Le bilan n'est ni négatif ni positif, car nous avons constaté quelques avancées dans certains secteurs et certains reculs dans d'autres. Le chômage au Congo reste permanent. L'accessibilité du citoyen à tous les services de l'État reste une illusion catastrophique. La situation socio-économique reste inquiétante, d'où le chef de l'État doit conjuguer beaucoup d'efforts dans une année qui lui reste de faire quelque chose d'important pour la population, surtout la jeunesse congolaise. Car un jour au pouvoir politique vaut mieux qu'être dans l'opposition 100 jours.
Professeur Casimir, cet auditeur est revenu sur l'aspect socio-économique. Là, nous évoluons. Quelle est votre analyse sur le plan politique et sécuritaire de l'action de Félix Tshisekedi depuis qu'il est président de la République, depuis 2019?
Merci beaucoup, Madame Kelly. Je pense que les tensions observées entre le FCC et le TASS. Je pense aussi que le démantèlement ou ce qu'il a appelé le déboulement de ou le basculement de la majorité du FCC vers l'Union sacrée ont pratiquement conduit à des fissures énormément graves au niveau de la classe politique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toute cette transhumance qu'on observe, de toute façon, l'effet de déficit observé au niveau de la maîtrise de différents paramètres par rapport aux acteurs politiques dans notre pays. Mais alors, les grandes décisions qui ont été prises dans les domaines de la sécurité ont été très ambitieuses, voire patriotiques. Mais elles ont souffert, madame, du déficit de planification et de coordination des actions. Jusqu'à la 13e prorogation, par exemple, de l'état de siège, la situation sécuritaire se détériore de plus en plus suite à la croissance de l'activisme des groupes armés. Qu'il s'agisse de l'état de siège ou de l'intervention militaire conjointe entre les FADC et l'UPDF ou encore des actions menées par le PDDRCS, les méthodes utilisées dans l'attaque ont démontré leurs limites. À mon avis, les ennemis de la République ont réussi à augmenter un nombre croissant de traîtres et nationaux identifiés dans plusieurs secteurs. Sur le plan idéologique, par exemple, l'islamisation. Sur le plan culturel, les ethnies situées aux frontières de d'autres pays qui ont des correspondants ou des affinités avec d'autres ethnies ne tardent pas de trahir les intérêts de la République. Sur le plan politique, on a identifié des politiciens, des acteurs politiques qui sont de messe avec les groupes armés, ils restent impunis. Et sur le plan militaire, il y a des chefs militaires, des autorités supérieures militaires, au niveau, suivez la dernière mission que vous avez eue avec les amis au nord, au sud Kivu, à Uvira, il y a des militaires qui ont fait pratiquement les chefs coutumiers dans cette partie de la République. Et on ne les amène pas ailleurs. S'il n'y a pas de complicité quelque part, si les militaires, les politiciens qui sont impliqués dans ce genre d'action ne sont pas sanctionnés, ne sont pas inquiétés, comment voulez-vous qu'on avance? J'ai l'impression que l'auditeur a raison et que je demande au gouvernement et au président de la République de réajuster les approches et les méthodes utilisées qui sont limitées afin d'aller plus loin.
Merci.
Je crois qu'on va tourner autour de mêmes approches. Les résultats seront toujours négatifs.
Merci, professeur. Maître Blanchard Mongomba, parlant sécurité, quel est votre bilan par rapport à la sécurité depuis que le président Félix Tshisekedi est à la tête de la RDC? Il avait promis de restaurer l'autorité de l'État en mettant fin aux groupes armés dans la partie est de la RDC. Alors, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui?
Madame, le bilan sur le plan sécuritaire est totalement négatif, un échec, parce que au-delà du fait que les Congolais continuent à mourir, nos frontières dans la partie est continuent à être visitées librement par les forces négatives, on a vu, malgré les semblants d'état des sièges qui ne fait que faire perdre à la République l'argent, on a vu le gouvernement aller s'associer avec l'armée ougandaise, alors que tous nous savons que l'armée ougandaise fait partie des agresseurs de notre pays. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a un rapport ou même un arrêt de la Cour internationale de justice qui condamne l'Ouganda à nous payer 10 milliards de dollars pour dommages-intérêts, parce que vous vous rappelez qu'en 2000, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus sur le sol congolais à Kisangani. Et parmi, en tout cas, ces pays, on voit aujourd'hui la République démocratique du Congo aller passer un accord pour, soi-disant, essayer de traquer les forces négatives. Ça montre que il n'y a aucune vision, il n'y a aucun plan pour éradiquer, pour mettre un terme à l'insécurité dans cette partie est de notre pays. Donc,
alors, en un mot, comment on peut résumer le bilan de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, selon vous, en un mot?
En un mot, je dis que le bilan est négatif. Le bilan est négatif et nous disons que notre peuple, ayant pris conscience de cela, il se prépare pour renouveler la classe dirigeante, parce que nous ne pouvons pas accepter revenir avec ces genres de personnes qui ont fait preuve de l'amateurisme au sommet de l'État.
Merci, Maître Blanchard Mongomba, professeur Casimir Ngoubi, en une année qui reste à Félix Tshisekedi. J'ai dit une année parce que 2023, c'est l'année électorale. Quel défi attendent Félix Tshisekedi brièvement?
En une année, il a annoncé le développement à la base de 145 territoires. Je crains beaucoup que cela soit réalisé, étant donné que, en même temps qu'il a les soucis de développer la RDC d'un côté, mais de l'autre côté, il faut se préparer aux élections. Et donc, je crains, il faudra vraiment qu'il soit un grand joueur de la trempe de Lionel Messi ou de Ronaldo pour être capable vraiment de convaincre l'opinion sur le plan national et international et de l'emporter aux élections en 2023. Je crois qu'il a beaucoup d'ambition, mais malheureusement, je demande, je sollicite de sa part le réajustement des méthodes, des approches et la traque, pas des groupes armés, mais la traque des politiciens véreux, des politiciens et complices, des acteurs complices, des autorités militaires complices qui pratiquement freinent l'élan sur le plan sécuritaire, politique à travers le pays.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. Dieudonné Kishi, nous l'avons perdu. On n'arrive plus à le joindre. On sera obligé de clôturer cette émission par ces propos du professeur Casimir Ngoubi, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, sous la supervision de Martin Sebujangwe. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Siala. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.